Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand est fidèle à notre rendez-vous au cœur de l'histoire et visiblement les auditeurs le sont aussi. Bonjour Franck.
Et oui, bonjour Céline, bonjour à tous. J'ai un grand merci à vous dire au nom de toute l'équipe car vous devenez là vraiment très nombreux à nous rejoindre chaque jour. Je salue aussi tous ceux qui téléchargent l'émission, c'est important. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire qui va nous ramener en ces temps heureux où l'homme s'enthousiasmait pour le progrès technique et guettait comme autant de bons signes chaque avancée et chaque succès des ingénieurs.
Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Nicolas qui nous l'a envoyé sur Facebook. Nicolas qui aimerait en savoir plus sur l'origine et l'évolution du système de notation à l'école.
Oui, je ne sais pas si Nicolas est concerné. En tout cas, la question est intéressante. Pour le moment, je vous propose de revivre ensemble la formidable aventure du câble transatlantique.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
À l'heure des liaisons satellites et d'Internet, nous communiquons en permanence et en temps réel avec les endroits les plus éloignés de la planète. Dans cet univers de l'hypercommunication, être relié, disons-le, devient presque une évidence. Ça paraît naturel et très ancien. En vérité, c'est extrêmement récent. Et l'invention, puis la généralisation du téléphone, dont nous allons parler tout à l'heure avec Alain Sirou, forme une histoire qui tiendrait pour un peu dans le dernier siècle. Alors vous allez me dire, avant le téléphone, il y avait le télégraphe. Oui, mais pas partout, et notamment pas entre l'ancien monde et le nouveau. Et oui, qu'on le veuille ou non, jusqu'à la fin du Second Empire, pour vous donner un repère, il n'y a pas eu de liaison télégraphique entre les deux pôles du monde occidental, et pour cause, on vivait tout pont coupé entre les deux rives de l'Atlantique. La liaison, on en rêvait. Ce devait être le fameux câble transatlantique, un tour de force technique absolument formidable, quelque chose d'inimaginable. Pensez, un long, très long, très très long câble électrique sous-marin de plus de 4000 kilomètres, un câble de plus de 4000 kilomètres, une chose à peine concevable pour les esprits de nos arrière-arrière-grands-parents. Alors, à défaut, évidemment, on est réduit à l'époque, quand on veut communiquer avec l'Amérique, à confier du courrier au paquebot à vapeur, hein, parfois même à voile. Et l'on attend la réponse pendant des semaines. Ce n'est pas faute d'avoir déjà imaginé un câble sous-marin. Le premier câble sous-marin électrique, il remonte au milieu du siècle, à 1851 exactement. Il s'enfonce sous les flots à Calais, il traverse toute la Manche et il ressort en Angleterre à Douvres. En soi, déjà, c'est un grand exploit. Mais l'exploit dont rêvent les aventuriers les plus fous est d'une toute autre ampleur. Traverser la mer Manche, c'est une chose. Installer un câble de télégraphie qui traverserait l'immensité de l'océan Atlantique, immensité sous-marine, avouez que c'en est quand même une autre. Alors, j'ai parlé des aventuriers les plus fous, je devrais dire le plus fou des aventuriers, car il existe et il est tout seul dans les années 1860. Il s'appelle Cyrus Westfield. C'est un audacieux, un visionnaire qui aime beaucoup les grands projets, bien entendu, et qui n'aime rien tant que les défis. Avec à résoudre, vous savez, tout un tas de soucis techniques insurmontables. Field a eu l'idée de ce câble transatlantique après avoir discuté longuement, et pas tout à fait par hasard, avec l'ingénieur anglais Frederick Gisborne. Ce Gisborne avait une certaine expérience de la chose puisqu'il avait été témoin de la pose du fameux câble Calais-Douvres. Ça lui avait donné des idées à ce brave homme et il avait pour ambitieux projet d'installer de son côté une ligne télégraphique entre Terre-Neuve, donc au Canada, et New York. Problème, il lui fallait des financements, bien entendu, et c'est pour ça qu'il était venu tenter sa chance auprès d'un jeune homme d'affaires américain d'une trentaine d'années, ce fameux Cyrus Westfield. Qui est-il, ce Field, dont vous avez bien compris qu'il est l'homme clé de notre affaire? C'est ce qu'on pourrait appeler un WASP, vous savez, un White Anglo-Saxon Protestant, issu d'une vénérable famille britannique installée en Nouvelle-Angleterre depuis 1629, excusez du peu. Autant vous dire qu'il appartient à la meilleure société du Massachusetts. Sa mère est très belle, elle fait partie des beautés de Boston. Et lui-même, le jeune Cyrus, est né en 1819. Il a abandonné l'école à 15 ans pour s'en aller courir le vaste monde avec 8 dollars en poche. Il s'est lancé d'abord dans l'épicerie en détail, puis en gros. 3 ans plus tard, il s'est associé avec son beau-frère dans la papeterie. Ils ont fait faillite, à un âge encore tendre. Après quoi, Cyrus, qui rêvait d'autres cieux, a voyagé loin, très loin, jusqu'en Europe, avant de revenir à 20 ans tout rond pour s'installer à New York. Il y a comme ça des gens qui perdent pas de temps. Assez vite, il a remboursé ses dettes, quand même 250 000 dollars de l'époque, et il s'est lancé dans les affaires, ou pour appeler un chat, dans la spéculation. En 1854, il est milliardaire, c'est même un des milliardaires les plus en vue de la bourse de New York. Physiquement, pour vous le situer, il ressemble un peu à Lincoln, vous savez. Et c'est donc en janvier 1854 qu'il fait la connaissance de cet ingénieur, monsieur Gisborne, qui avait eu l'idée donc d'installer un câble entre Terre-Neuve et New York. Et puis, il avait l'idée par ailleurs d'avoir des bateaux à vapeur très rapides qui relieraient Terre-Neuve à l'Irlande, ce qui permettrait quand même d'améliorer considérablement la communication des informations entre l'Europe et les États-Unis. On prenait un bateau à vapeur et puis ensuite, depuis Terre-Neuve, on télégraphiait tout ça à New York. Sauf que Field, faut l'imaginer, Field qui tire sur son cigare, hein, qui soupire un peu, il n'y croit pas à ce projet. Et un câble transatlantique, dit-il. Non, ça, Gisborne ne peut pas y croire. Vous imaginez traverser l'océan Atlantique avec un câble? Non, ça, c'est trop utopique. Oh, Field ne va pas se fâcher pour si peu. Il va même signer un accord avec l'ingénieur, il rachète à Gisborne ses royalties sur l'affaire, et lui, il se charge de la faire aboutir. Il n'est pas mécontent de son coup, Field. Seulement maintenant, il faut rendre la chose faisable, ce qui n'est quand même pas une mince affaire. Alors il se renseigne un petit peu, il prend contact avec 2 spécialistes par courrier. Une première lettre s'en va pour le lieutenant Maury, qui fait partie de l'US Navy, qui est directeur de l'Observatoire National de Washington. C'est cet homme qui, quelque temps plus tôt, a signé un rapport sur les courants et sur les fonds sous-marins de l'Atlantique. Field lui demande ce qu'il pense de la pose au fond de l'océan Atlantique d'un câble télégraphique qui serait propre à relier les 2 continents. Et puis une deuxième lettre est partie pour un homme d'affaires célèbre, un homme de science célèbre, Samuel Morse, dont l'alphabet Morse porte le nom, vous savez. Field veut connaître son opinion sur la faisabilité de faire franchir un courant électrique les 3000 kilomètres qui séparent Terre-Neuve de l'Irlande. Eh bien, en moins de 15 jours, les 2 réponses arrivent sur le bureau de Field. Or, ce sont des réponses positives. Le lieutenant Maury assure qu'on connaît assez bien les fonds marins, enfin sous-marins, pour pouvoir installer un câble transatlantique. Quant à Morse, de son côté, il considère que s'il s'agit d'un courant électrique régulier et que le câble est suffisamment bien isolé, eh bien, ça ne devrait pas poser de problème insurmontable. Field se frotte les mains et, comme bien souvent, il n'est pas mécontent de son coup.
Rachmaninov sur Europe 1, un extrait du concerto numéro 2. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'histoire du câble transatlantique.
Alors voici, se dit Monsieur Field, un projet tout ce qu'il y a de faisable. Maintenant, il faut passer à l'acte. Ça, c'est son créneau. Il commence d'abord par créer une société, évidemment, la compagnie câblière transatlantique. On est là en mars 1854, c'est-à-dire moins de 2 mois seulement après sa rencontre avec Gisborne. Ça va vite, tout ça. Après ça, il va falloir tout de même 2 années pour toutes les mises au point, les sondages, les balisages, je vous passe tout toutes sortes de détails qui m'échappent. Gisborne, précisons-le, a quand même reçu 40 000 $ pour abandonner à la nouvelle compagnie son entreprise Terre-Neuvienne et son câble. Après quoi, le Parlement canadien va confier à Monsieur Field l'exclusivité de l'exploitation de la télégraphie aérienne et sous-marine à Terre-Neuve, au Labrador, Nouvelle-Écosse, etc. Faut vous dire quand même que notre homme entretient des relations considérables, y compris en Grande-Bretagne, et puis naturellement aux États-Unis. Les deux gouvernements vont se faire un plaisir et même un devoir d'investir quelques 70 000 $ chacun et chaque année pendant 26 ans. Mais, et ça c'est quand même un gros mais bien restrictif, seulement une fois la ligne établie. C'est-à-dire qu'ils veulent bien payer les gouvernements à condition qu'on leur prouve que ça marche. Alors on en vient là à la phase d'expérimentation. La première expérience a lieu dans la nuit du 9 octobre 1856. Elle a lieu dans les îles britanniques parce qu'à l'époque, ce sont les seuls à présenter en ligne 8000 km d'exploitation télégraphique. On va mettre pendant un moment, on réserve pendant 3 heures, l'ensemble du système à la disposition des ingénieurs de Monsieur Field. Et l'on envoie un courant à un bout pour voir si ça va jusqu'à l'autre. Eh ben oui, le courant passe, c'est le cas de le dire. L'expérience est une franche réussite. Désormais, Field en est sûr, son courant pourra franchir l'Atlantique comme une lettre à la poste. Vous voulez que je vous dise, il est pas mécontent de son coup. Ça, c'est pour la phase d'excitation. Après viennent les difficultés. Forcément. D'abord, difficultés financières. Mais les gens d'affaires vous diront que les difficultés financières n'en sont pas. Le 6 novembre 1856, on crée une compagnie anglo-américaine qui s'appelle l'Atlantic Cable Company, au capital de 8 750 000 francs hors de l'époque, divisé en 3500 parts de 2500 francs. Field en acquiert quand même le quart. En un mois, toutes les actions ont trouvé preneur. Je vous le dis, ça marche bien. Ensuite, les difficultés techniques. Ah, là, ça devient plus intéressant parce que c'est bien joli cette histoire de câble interminable. Seulement, il faut le fabriquer d'abord, ce câble. Jamais, vous pensez bien, on a encore créé dans l'histoire de l'humanité un câble aussi long. Plus de 4000 kilomètres. 1000 kilomètres de plus que la distance réelle entre l'Irlande et Terre-Neuve. On essaie du coup de compenser en réduisant le diamètre, 18 mm seulement, bien plus petit que les câbles employés jusqu'ici. Ça pèse quand même lourd tout ça, 634 kg au kilomètre, soit 2600 tonnes en tout. Il va falloir le porter le câble. Il n'y a plus qu'à se mettre au travail. On va le fabriquer, ce câble, il faut imaginer, à Greenwich, près de Londres. Plus de 6 mois durant, on tisse ce câble métallique de janvier à juillet 57, pour une petite somme bien rondelette de 5 millions de francs or, tout de même. À présent que le câble existe, encore faut-il le transporter. Alors, comment voulez-vous transporter un fil métallique d'une telle longueur, d'un tel poids? Ça paraît a priori insurmontable. Pas pour Monsieur Field et pour ses ingénieurs. Eux font aménager spécialement 2 frégates à vapeur, l'Agamemnon qui est anglaise et le Niagara qui est américain, le tout guidé par pas moins de 3 navires pilotes. Chaque bateau va donc embarquer la moitié du câble dans ses cales, enroulé sur une sorte de gigantesque tambour, lui-même actionné à la vapeur et dirigé par une équipe de spécialistes qui vont dévider petit à petit le câble par l'arrière du bateau. C'est un tour de force incroyable. Le Niagara doit dérouler le câble à partir de Valentinia jusqu'à épuisement. Et puis on soudera le bout. Mieux vaut ne pas le laisser tomber à ce moment-là. À l'extrémité de l'autre câble, celui de l'Agamemnon, qui ensuite poursuivra l'opération jusqu'à Terre-Neuve. C'est magnifique quand même quand on y songe. Le grand moment du départ est arrivé le 7 août 1857. Là, on peut dire que l'opération commence, sauf que dès le premier jour, le câble rompt tout net à 10 milles de la côte. Il faut réparer en pleine mer, ça commence bien. Au bout de 5 jours, le 12 août, on est là à 500 km de la côte. Le câble cède à nouveau à cause d'une fausse manœuvre. Oui, mais cette fois, il coule à pic par 3000 mètres de fond. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Eh bien, il n'y a plus qu'à rebrousser chemin. Retour de l'expédition à la case départ. Nouvelle commande de câble à partir des restes qui étaient encore à l'usine. Et nouveau départ, cette fois le 10 juin 1858, mais avec une autre technique. Cette fois, l'Agamemnon et le Niagara ont été chargés, comme la première fois, chacun de la moitié du câble. Seulement les 2 navires se rendent au milieu de l'océan. Ils soudent à ce moment-là les 2 extrémités du câble et puis ils s'en vont chacun de son côté. Le Niagara vers l'Amérique, l'Agamemnon vers l'Europe. Le 20 juin 1858, après 10 jours de mer, l'Agamemnon est pris dans une tempête. Le câble se déroule sur le pont, hein, comme un gigantesque serpent qui fauche les matelots, ce qui va générer d'ailleurs de graves blessures, mais ne tuera personne. L'équipage est complètement anéanti, moralement, je veux dire. On tente même, il y a des marins qui veulent jeter le câble à la mer, ce à quoi les officiers s'opposent évidemment, et finalement, le navire va rejoindre le Niagara. En mer, pendant cette expédition, le câble va rompre plusieurs fois. À la 4e rupture, ce sont 800 kilomètres de fil qui sont perdus, vous imaginez. Et bien pour autant, ça ne remet pas le projet en cause. À bord des vaisseaux, dans les usines, il y a une quantité suffisante de câbles. Le 27 juillet 1858, l'Agamemnon et le Niagara reprennent la mer une troisième fois pour aller se retrouver dans l'Atlantique à mi-chemin entre les deux continents. Et là, 2 jours plus tard, c'est une baleine, cette fois, qui vient s'enrouler dans le câble. On la chassera à coups de canon. Finalement, le 3 août 1858, l'Agamemnon arrive à Valentinia. Et 2 jours plus tard, c'est au tour du Niagara d'atteindre Terre-Neuve. Alors maintenant, le câble, il est tendu. Il est au fond de l'océan Atlantique, vous imaginez. Mais est-ce qu'il va fonctionner? On essaye. Premier message, on appelle ça un câblogramme. Transmis le 18 août 1858, eh bien, ça marche. Combien est-ce qu'il lui faut de temps pour traverser l'océan ? 35 minutes seulement au signal électrique, figurez-vous. L'Europe et l'Amérique sont unies par une communication télégraphique. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Voilà le message qui vient d'être transmis. 2 jours plus tard, la reine d'Angleterre, la reine Victoria, et le président des États-Unis, le président James Buchanan, vont échanger pour la première fois des félicitations via le câble. Vous imaginez, Cyrus Field, qui était en mer au moment de la réussite, n'est pas mécontent de son coup, mais pas du tout. Tout marche à merveille pendant 3 semaines. 400 câblogrammes sont échangés. Ne paraît d'autre du câble gigantesque, les télégraphistes transcrivent les messages en morse, hein, bien entendu, qui arrivent donc à l'autre bout du monde en une grosse demi-heure. On finirait presque par s'y habituer. Et puis soudain, c'est de nouveau le silence. Les messages semblent s'être perdus quelque part au fond des océans.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1.
Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Envoyez vos messages sur notre sujet du jour, le téléphone, par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand, ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, c'est la suite de votre récit, Franck Ferrand, sur l'histoire du câble transatlantique. Et nous replongeons avec vous, Franck Ferrand, dans l'histoire du câble transatlantique.
Oui, alors ce câble, il ne marche plus, c'est terrible. Pourquoi ce silence? Évidemment, une commission d'enquête est constituée, et son rapport conclut que le câble n'est pas rompu, parce qu'on s'était dit, le câble, il a dû se casser quelque part au fond de... Vous imaginez, parfois, il descend très très bas au fond de cet océan Atlantique. Non, il n'est pas rompu. En 1859, on remonte des sections du câble sur les côtes de Terre-Neuve, et là, le diagnostic s'impose. C'est l'armature métallique qui n'a pas résisté à l'oxydation, surtout, mais aussi aux roches, aux coquillages, etc. Cyrus Westfield va-t-il s'avouer vaincu ? Ce serait mal le connaître. Cet homme est continuellement en mer, et même au beau milieu de la guerre de sécession, hein, il n'arrête pas ses expériences. Eh bien, il va mettre 6 ans à reconstituer son capital financier. Et en mai 1865, un nouveau câble est prêt. Celui-ci a demandé une pleine année de travail à des ouvriers qui ont tissé ce câble de 4760 km de long. On a pris une marge de sécurité de 40% cette fois. Il pèse 5000 tonnes et il a coûté l'équivalent de 17 500 000 francs or. Pour son installation, la décision est prise de n'utiliser cette fois qu'un seul navire qui s'appelle le Great Eastern. Alors, vous imaginez ce que c'est le Great Eastern qui devait s'appeler le Léviathan au départ. Un navire de dimension tout à fait hors norme, hein, 210 mètres, en tout cas pour l'époque, 210 mètres de la proue à la poupe. La largeur du pont fait 25 mètres, un poids de 22 500 tonnes, 2 roues à aubes de 18 mètres de diamètre, 6 mâts, des machines de 3000 chevaux, bref, un monstre absolu. Ce Great Eastern a été aménagé spécialement pour transporter le fameux câble que l'on va loger enroulé dans 3 cuves de 18 mètres de diamètre chacune. C'est un monstre. Il y a 500 personnes à bord, l'équipage, le capitaine Anderson, les entrepreneurs, les techniciens du câble et, bien sûr, Monsieur Field, aux premières loges. Le 24 mai 1865, avant le grand départ, on reçoit à bord la visite du prince de Galles, le futur roi Édouard VII, qui vient s'assurer que tout va bien. Et un mois plus tard, le Great Eastern quitte donc Liverpool pour l'Irlande. On soude à ce moment-là le câble conducteur au câble côtier. Et puis voilà, ben on a pareil, dans la nuit du 24 juillet, direction les États-Unis. Il n'y a plus qu'un bateau là maintenant. Le jour même du départ, à moins de 15 km de la côte, premier arrêt, les appareils de vérification ont bloqué. On s'aperçoit qu'un fil de fer de 4 cm coupé à la pince traversait le câble. On fait une soudure et allez, ça repart. Le 2 août, à 2h30 du matin, le câble se rompt net et sombre par 3000 mètres de fond. L'équipage tente un repêchage. Ça va durer 10 longues journées, ça, avec, faut imaginer, le brouillard, une tempête terrible, c'est des conditions invraisemblables. Et ça ne marche pas. À ce moment-là, une bouée est laissée à l'endroit où le câble a cédé. Objectif, revenir quand il fera meilleur temps, avec un matériel de relevage, hein, des treuils, des, tout ce qu'il faut, des chaînes, des filins, etc. pour le récupérer. En attendant, on rentre à Liverpool. Où l'on va fabriquer un nouveau câble, avec les 2000 km de câble encore dans les ateliers, plus les 3500 km de fil neuf. On fait un câble qui va faire cette fois 5500 km, c'est encore plus que la dernière fois. On utilise le mastic Chatterton d'ailleurs pour bien isoler ce câble, et le diamètre est nettement plus important. Cette fois il fait 27 mm de diamètre, le poids est donc d'autant plus lourd. Le 13 juillet 1866, le Great Eastern reprend la mer, ou plutôt l'océan, accompagné de 4 navires qui transportent du câble de secours au cas où. On mouille donc le câble avec régularité. Jusque-là, c'est une réussite. Grâce au câble, les marins reçoivent régulièrement des nouvelles du vieux continent, au passage, qui sont imprimées sous forme de journal. C'est le premier journal à distance qui est créé. C'est d'ailleurs l'équipage lui-même qui va collaborer à la rédaction de ce document et qu'on envoie surtout sur le continent pour donner des nouvelles. C'est passionnant pour les gens. En pleine mer, on apprend des événements de la veille qui ont lieu dans le monde entier. L'incendie de Portland, le choléra de Liverpool, la faillite d'une banque à Birmingham ou encore la naissance le 21 juillet d'un enfant de matelot, de l'enfant d'un des matelots irlandais de l'équipage. Field sera son prénom du reste et on va le baptiser Cyrus, le gamin. On télégraphie les compliments en direction du vieux continent. Bref, le 23 juillet à midi, à mi-chemin dans l'océan, le travail continue sans encombre jusqu'au 26. Et là, grande peur, l'équipage aperçoit un iceberg sur la route du câble. Problème, il peut, en fonction de sa hauteur, raboter le fond de l'océan, cet iceberg. Seulement, la grosse frayeur est vite effacée, l'iceberg disparaît, au grand soulagement de tout le monde. En fin de compte, il aura fallu 14 jours pour gagner Terre-Neuve. Vous imaginez la réception d'enfer à l'arrivée le 27 juillet. Un premier message commercial est envoyé en septembre 1866. C'est une dépêche à destination du New York Herald. La transcription dans son intégralité du discours de l'empereur Guillaume à ses 20, qui vient de gagner, hein, qui vient de remporter la victoire de Sadova sur les Autrichiens. Oui, on est en 1866. Le coût de la dépêche, 36 000 francs quand même, évidemment. Reste à relever le câble de 1865 qui avait quand même coulé à 3000 mètres de fond. Ça va être chose faite après des péripéties incroyables le 2 septembre. Or, heureusement pour tout le monde, ce câble est encore utilisable. Ce qui fait que ce câble de 1865 est soudé avec le fil complémentaire qui avait été levé dans la cale du Great Eastern, direction Terre-Neuve, de sorte que le 8 septembre 1866, les deux continents sont réunis par deux liens permanents. Autrement dit, Monsieur Field a réussi son coup. Cette histoire des télécommunications est extraordinaire et nous dit Alain Sirou, elle est vieille comme le monde. Bonjour Alain.
Bonjour Franck.
Nous vous retrouvons dans un instant pour parler de cette extraordinaire aventure.
Et nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire du téléphone avec vous Franck Ferrand et votre invité Alain Sirou, consultant scientifique d'Europe 1, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace.
Et du magazine Macrocosme dont le numéro d'hiver 2013-14 vient de paraître. Je l'ai entre les mains, c'est un très beau magazine du ciel et de la terre, Alain Sirou. Quand je dis très beau, au sens esthétique, hein, c'est aussi magnifique à feuilleter qu'un bel ouvrage d'édition, avec notamment un texte de Michel Onfray sur sa conception du ciel et de la nuit.
Et sur son rapport avec les étoiles, avec des lumières, et donc évidemment avec de la communication, puisque la lumière c'est une information qui circule à la vitesse de la lumière. Et c'est vrai que l'obsession des hommes, depuis qu'ils sont hommes, c'est de communiquer à distance, savoir à l'avance l'information, être prévenu. Et c'est vrai, quand on cherche aujourd'hui quel est dans l'histoire, les moyens de communication
les plus
utilisés,
anciens,
on n'a que l'embarras du choix. On peut citer par exemple la reine Clytemnestre en 1084 avant Jésus-Christ.
Les plus d'Agamemnon, hein.
L'épouse d'Agamemnon qui apprend la chute de Troie et donc le retour de son mari, etc. Donc on se rend compte que la communication optique.
Oui, il y a les signaux de fumée, il y a tout ça, il y a les miroirs déflecteurs, enfin il y a énormément de moyens de communiquer à distance, notamment presque toujours dans des circonstances militaires, faut dire, mais pas seulement. Et puis il va y avoir à la fin du XVIIIe siècle l'invention de chape quand même.
Eux vont inventer, l'ancêtre du télégraphe, la télégraphie optique. Alors je vous rappelle quand même quand même important, c'est que les racines grecques de télégraphe, télé, c'est loin en grec,
la distance.
Et graphène, c'est écrire, donc c'est écrire à grande distance. Et ce qu'ils vont faire, les frères Chappe, c'est qu'ils vont inventer des tours qui sont installées sur des collines, c'est-à-dire en fait des poteaux verticaux.
Sur des éminences, sur des lieux élevés.
Qui comportent en haut en fait une sorte de bras pivotant en forme de T et qui permet en fait d'envoyer des signaux visibles en 49 positions différentes. Et ces 49 positions différentes, ce qu'on appelle aussi un sémaphore, elles permettent entre Paris et Toulon, puisqu'on va faire l'expérience à ce moment-là, en plantant 120 tours, de faire circuler 50 signaux en une heure à une vitesse 100 fois plus rapide que le plus rapide des coursiers de l'époque. Donc on va déjà extrêmement vite, simplement en regardant un signal, lequel signal va ensuite être utilisé, par la communication électrique.
Ce qui veut dire qu'un événement qui s'est passé à Paris peut être connu à Marseille dans l'heure qui suit, alors qu'avant il fallait au moins une bonne journée, même deux journées, en prenant tous les relais les plus rapides possibles, même parfois davantage, si on prend simplement les messagers à cheval.
Ce qui veut dire que la carte de France serait très simple. C'est-à-dire que le lien entre les provinces les plus lointaines et Paris, où est toujours le centre de l'information, devient quelque chose qui est extrêmement important, d'où la géographie des lieux. Et quand on va, dresser ces tours de chape et qu'on va essayer de communiquer à grande distance, on va s'intéresser à deux choses. D'abord au relief, donc vraiment une histoire de la géographie de la France, et puis ensuite à la meilleure façon de communiquer. Comment peut-on parler vite, à grande distance, pour avoir l'information à l'avance?
Alors le télégraphe, c'est quand même l'ancêtre direct du téléphone dont nous allons parler dans un instant. C'est l'invention extraordinaire du 19e siècle, ça a tout révolutionné. La toute première fois, vous me disiez ça avant que ne commence l'émission, la toute première fois que le télégraphe va modifier une affaire de police, notamment, c'est en 1845.
C'est quelque chose qui est extraordinaire parce que ça montre tout de suite que c'est un objet du quotidien. C'est un objet qui va s'imposer parce qu'il est utile. On est là le 1er janvier 1845 et un certain John Tavell, qui est en Angleterre, est repéré comme tentant d'empoisonner une femme dans une petite bourgade à quelques centaines de kilomètres de Londres qui s'appelle Slough. Et en fait, il est surpris par un témoin. Et il s'enfuit, évidemment. Et il rentre à Londres par le train en pensant, par la vitesse, évidemment, échapper à ses poursuivants. Et à ce moment-là, le témoin décrit à un télégraphiste, puisqu'une ligne de télégraphe a été installée dans cette direction-là pour permettre d'avoir de l'information simplement du train. Il le décrit comme un Quakers, donc vraiment quelqu'un qui est typiquement habillé comme un ouvrier spécifique, etc. Il est attendu à la gare par un détective, grâce à ce message. Il est suivi jusque chez lui, il est arrêté et il sera pendu. Donc l'information
a été plus vite que le
malfaiteur. Donc ça fait évidemment, du côté anglais, le succès de cette information, parce qu'elle a un côté extrêmement pratique.
Alors pour transmettre les messages, il a fallu avoir l'alphabet adéquat. Et ça, c'est l'invention d'un certain monsieur Morse.
Alors, disons que Morse, il a inventé le Morse. Ça va pas vous surprendre, mais le fait de communiquer par des signaux
des brèves et des longues,
finalement, on pense que ça remonte au Moyen-Âge, déjà dans les prisons où les toutes les prisonniers communiquer entre eux en frappant
des
coups.
C'est une habitude de prisonnier, ça.
De prisonnier. Et Morse va, on va dire qu'il va le synthétiser. Grâce à un point et à un trait, il va permettre la communication. Alors au début, c'est assez court. Il peut faire à peu près une quinzaine de mots à la minute. Et puis, je dirais, ensuite, on va accélérer le système. Il a un intérêt, c'est qu'il est universel. On peut écrire
dans toutes les langues alphabétiques, en tout cas, oui.
Dans toutes les langues alphabétiques. Et puis, il est extrêmement simple d'utilisation. Il peut être répété. Et il peut aussi
être... On connaît le 3 points, 3 traits, 3 points du SOS, hein, bien
entendu. Exactement. Oui. Et il peut aussi être... Alors, c'est ça qui est extraordinaire. Absorbé, compris ou en tout cas intégré par une machine. Il va faire un trou ou une ligne. Et donc les machines automatiques vont commencer à lire des signaux Morse, ce qui assurera, je dirais, le succès du système, évidemment.
Alors ce système, il faut constamment l'améliorer, améliorer la façon de transmettre les messages et de les décoder, puisque il faut que ça aille le plus vite possible. Il y a des gens qui sont devenus des experts, hein, ça va très très vite, oui. C'est assez extraordinaire. D'ailleurs, il transcrit vraiment le message en temps réel. Mais comment l'améliorer? C'est ici qu'interviennent nos deux grands personnages d'aujourd'hui, c'est-à-dire Bell et Edison.
Oui, parce qu'il est victime de son succès, le télégraphe. D'abord, il a changé la société extrêmement rapidement. Il va permettre aux informations de circuler à travers les continents. Il va permettre, par exemple, d'assurer la sécurité des chemins de fer, la gestion des trafics, les alertes météo. N'oubliez pas que l'observatoire du Pic du Midi, par exemple, en France, Bagnères de Bigorre, on a l'information sur l'arrivée des tempêtes et on communique à destination des bateaux. C'est les horloges, les avertisseurs, les sonneries électriques, bref... Autre exemple, le siège des Prussiens autour de Paris est, je dirais, amélioré par la qualité de l'information transmise par le télégraphe. Donc le télégraphe est très vite saturé. Et la question qui se pose, c'est comment faire passer plusieurs informations en même temps sur un même fil.
On a bien compris que, par exemple, entre l'Amérique et l'Europe, il n'y a que deux malheureux fils, et encore c'est déjà extraordinaire, on a vu à quel point ça a été difficile, mais à la fin des années 1860, à la fin du Second Empire en France, il y a ces deux fils. C'est pas beaucoup de fils pour faire passer des masses d'informations. Donc l'idée, ce serait comment arriver à faire passer en même temps plusieurs messages sur les malheureux fils. Hein, c'est ça l'idée.
Par un mot qu'on connaît très bien aujourd'hui, qui s'appelle le multiplex,
et ben voilà.
C'est-à-dire comment, à travers un seul système, engager plusieurs conversations à la fois. Et la grande compagnie qui s'occupe du télégraphe va demander à faire un appel aux inventeurs en disant, mais inventer quelque chose qui nous permette d'accélérer la quantité d'informations diffusées par un seul et même fil.
Alors ça, c'est là qu'intervient... Qui est le grand spécialiste de ça? C'est Bell, justement?
Alors, je dirais que c'est sans doute... alors, c'est extrêmement difficile parce que, vous voyez, c'est une pléthore. C'est pléthore d'inventeurs. Oui. Et puis, vous vous rendez compte qu'en fait, les inventeurs, c'est pas des hommes de technique tels qu'on les imagine. Voyez-vous, par exemple, Samuel Morse était peintre. Charles Cros était poète. Alexandre Bell était physiologiste et s'intéressait, lui... à l'oreille.
Et au sourd-muet. Hein. Il était éducateur dans une institution de sourd-muet.
Éducateur dans une institution de sourd-muet. Et donc, il va s'intéresser, évidemment, à la parole. Parce que pour lui, avec les enfants qui souhaitent parler, il essaie de trouver quelque chose qui permette d'utiliser à la fois ce que la nature a créé et ce que les savants ont découvert. C'est-à-dire l'information qui pourrait passer par l'électricité. Et c'est là le grand pont, c'est-à-dire le travail sur l'électricité, l'électromagnétisme qui va révolutionner la donne. Donc,
c'est là que le géo trouve tout, Edison intervient aussi. Bien
et
entendu.
C'est là aussi que cet énorme inventeur fantastique aux 1200 brevets qu'est Edison va aussi participer. Mais on va rester, je dirais, pour l'instant
C'est le Léonard de Vinci américain, Edison. Alors on en parlera tout à l'heure parce que ce que l'un et l'autre, et notamment Bell, vont faire en essayant d'améliorer le télégraphe, c'est qu'ils vont tout simplement inventer le téléphone. Une maison, nous dit Erwan, qui comme son prénom l'indique, nous écrit de Bretagne, une maison est actuellement en vente près de Brest. Il s'agit de la maison du télégraphe qui était un nœud important dans le monde des télécommunications dans la première moitié du XXe siècle. Une histoire qui débuta en 1879 pour se terminer en 1962. Cette maison est située plus précisément au lieu dit Deuilen, à Locmaria-Plouzané. Merci Erwan de cette indication qui nous prouve que ce dont nous sommes en train de parler a laissé évidemment de nombreuses traces dans notre paysage quotidien.
Balzac sur Europe 1, un extrait de la symphonie numéro 8. Nous parlons cœur de l'histoire aujourd'hui du téléphone avec vous, Franck Ferrand et votre invité Alain Sirou, consultant scientifique d'Europe 1, directeur des rédactions des magazines Ciel et Espace et Macrocosme.
Et vous me disiez à l'instant, oui. Céline, je vais tout raconter à nos auditeurs, qu'avec votre fille, vous aviez ce week-end même fabriqué un téléphone.
Exactement,
en fait,
hein. Avec deux pots de yaourt et de la ficelle. C'est vrai.
Et ça marche
dimanche.
En plus, c'est ça qui est étonnant.
Le brevet a déjà été déposé.
Dommage.
Et oui, ça marche. En tout cas, de façon, je dirais, mécanique, ça marche. Parce que qu'est-ce que c'est que le son? Qu'est-ce que vous entendez chez vous aujourd'hui en nous écoutant? Eh bien, vous entendez quelque
chose. Hein,
des vibrations. Le son, c'est quoi? C'est évidemment une sensation auditive qui est produite par des vibrations mécaniques qui se transmettent dans une pièce et qui, je dirais, peuvent être transportées à distance. Le problème, c'est comment transporter à distance la vibration que nous écoutons.
De la voix humaine, en
l'occurrence. De la voix humaine, oui. Tous les deux dans ce studio, Franck. Et ça, c'est vraiment la chose. Alors, Bell a une intuition. Et c'est une intuition géniale. Je vous ai dit, il est physiologiste, il s'intéresse aux sourds-muets, et il regarde les oreilles, et il se rend compte que les os de l'oreille sont très massifs par rapport à la membrane qui fait vibrer les os d'oreille. Et il se dit, mais si je remplaçais l'os d'oreille par un morceau d'acier magnétisé, et puis je faisais passer un courant qui module en conséquence de cette pression, peut-être que ça fonctionnerait. Donc il va partir de cette idée qui est en fait de...
Une forme d'intuition. Hein.
C'est une intuition, c'est une observation de la nature. Aussi,
c'est, ça,
hein,
oui.
C'est de faire varier l'intensité d'un courant électrique de la même manière que la densité de l'air qui varie lorsqu'un son s'y propage. Donc c'est vraiment cette idée-là. Pour cela, il faut construire deux choses. Il faut construire d'abord un récepteur, c'est-à-dire quelque chose qui enregistre la pression de ma voix dans
l'air. Ce qu'on appelle, nous, un micro.
Ce qu'on appelle un micro. Il faut transformer les vibrations dans le micro par un signal électrique. Il faut transporter ce signal électrique et le restituer à l'autre
là,
bout.
C'est là
de faire
que ça
l'inverse.
Devient compliqué. Là, oui.
C'est de faire l'inverse. Alors, c'est ce à quoi va s'attacher Bell, et je dirais c'est là l'origine et l'invention du téléphone. Alors, on nous le dira parce que c'est pas Bell en tant que tel qui a inventé le téléphone. Ça a été déposé bien avant par un monsieur qui s'appelait Philippe Reis, qui est un Allemand et qui a en fait avait fait tremper une aiguille dans du mercure. Mais selon le même principe, l'aiguille bougeait et vibrait dans le mercure. Bon, sauf qu'on n'entendait rien. Bell va faire comme votre fille, c'est-à-dire que il va s'intéresser aux membranes. Et le pot de yaourt, c'est une membrane. Il est financé par des gens qui vendent de la peau, marchands de cuir. Et donc, il va travailler à partir d'une membrane et essayer, je dirais, avec un diaphragme de peau, de faire vibrer ce diaphragme à côté d'un électro-aimant, en quelque sorte. Et il va réussir. Il va réussir à propager du son, à le transformer en signal électrique et à le restituer de l'autre côté.
Donc, il a inventé le téléphone, là, alors.
Alors, il a inventé le téléphone, sauf que quand vous regardez, Franck, aujourd'hui, un téléphone chez vous, à supposer qu'il vous reste encore un téléphone
oui,
à fil.
Oui, parce que maintenant, on a tous des téléphones sans fil.
Voilà, mais bon, il y en a encore avec des
oui,
fils.
Il y en a encore.
Qu'est-ce qui reste de l'invention de Bell? Il reste le fil. Bon, ouais. On en a parlé. Et il reste l'écouteur. C'est-à-dire que ce qui va suivre, et entre autres l'invention d'Edison, ça va être le micro et ça va être tout ce qui va constituer ce que fait une voix, c'est-à-dire le timbre, la puissance, la clarté, le signal, qui n'était pas disponible quand Bell fait cette expérience. Bell a une expérience extraordinaire. Il téléphone pour la première fois à son assistant. C'est quelque chose de tout à fait unique, qui est dans la pièce à côté. Et vous savez ce qu'il lui demande? De venir le rejoindre. Eh bien, ça marche. Et c'est ça, la première conversation téléphonique.
Il le voit arriver, donc ça veut dire que ça a marché.
Monsieur Watson, qui aidait Bell.
Ah, ça devait être très émouvant quand même. Ils étaient dans les deux pièces contiguës, j'imagine, mais peu importe. C'est
peu importe, et parce que ça va se développer tout de suite. C'est-à-dire que il perfectionne, je dirais, très vite cette invention, et il la met à disposition de l'exposition universelle qui, à Philadelphie, a lieu à ce moment-là. Et tout le monde est absolument étonné pouvoir communiquer à travers la voix, même si la voix n'est pas très très bonne, eh bien ça encourage tout de suite à installer la première ligne téléphonique qui est ouverte le 4 avril 1877. Et c'est un marchand, hein, un certain monsieur Charles Williams, qui installe un téléphone dans son magasin qui le relie à sa maison de Somerville. Donc il se téléphone à lui-même, mais je veux dire, cette première ligne va développer et va constituer quelque chose qui va être une révolution absolument gigantesque. Mais n'oubliez pas qu'au
même
moment...
Alain, n'a pas été très rapide, hein, pardon, mais cette révolution, si c'est 1877 le brevet, le téléphone ne se généralise pas véritablement, en tout cas dans notre vieux monde, il ne se généralise pas avant les années 1895-1900 pour en avoir un peu partout des téléphones.
Hein. Oui, parce qu'il faut du temps pour transporter un signal. Il va falloir aussi améliorer chacun des éléments de ce téléphone. Il va falloir installer un réseau. Et puis, n'oubliez pas, les pratiques elles-mêmes. Les premières personnes à utiliser le téléphone n'avaient pas du tout envie qu'on leur réponde. Elles donnaient des ordres. Elles écoutaient un concert.
Ah oui, ça c'est Proust qui écoutait le théâtre ou l'opéra par un procédé qui était téléphonique.
Absolument.
En fait,
hein, donc il y a les usages aussi, bien évidemment. Et évidemment, ce que va faire Edison, c'est qu'il va donner, justement par une invention technique, le microphone, quelque chose qui est tout à fait exceptionnel.
Mais alors, à vous entendre, on a l'impression, Alain, qu'Edison n'a fait que perfectionner l'invention. Est-ce qu'on peut dire ça?
Non. Je ne crois pas. Je pense qu'Edison, je dirais, est arrivé au même moment que Bell, mais Bell l'a un peu dévancé. Simplement, Edison est un inventeur autodidacte, faiseur d'expériences, et il va déployer une puissance de pensée, une puissance d'assistant, le laboratoire qu'il a à disposition, qui est financé par...
C'est une gloire mondiale, il faut dire, Edison, à l'époque. C'est un personnage, quand il se déplace, quand il vient à l'exposition de 1889, c'est comme si c'était un chef d'État qui arrivait. Hein,
absolument. Et puis n'oubliez pas qu'il est financé par la Western Union, c'est-à-dire le propriétaire du télégraphe qui veut que ça s'améliore. Il est confronté à un défi qui va lui prendre l'essentiel du temps de recherche qu'Edison a jamais consacré dans sa vie à une invention, 18 mois, ce qui est beaucoup pour Edison, 1200 brevets quand même. Il a un très gros problème à résoudre, c'est le problème de la parole, c'est-à-dire le micro. Le microphone dans lequel il faut parler. N'oubliez pas le principe, hein, c'est en faisant varier la résistance dans un circuit qu'on peut convertir des ondes sonores en signaux électriques. Or, c'est quelque chose d'extrêmement fin et d'extrêmement délicat. Donc, il faut trouver le support. Ça peut pas être le pot de yaourt, parce que d'abord, s'il n'existe pas à l'époque, et puis ensuite, il permet pas de téléphoner à l'autre bout du monde. L'invention de Bell est pas mal, mais en même temps, ça n'assure pas le timbre, c'est pas haut et clair.
Oui, c'est-à-dire que ça donne un message qui est quand même très nasillard,
qui est très,
très électrique,
nasillard.
Si je puis dire.
Donc, en fait, il va remplacer ce qu'on appelle les réostats liquides qui ont été inventés donc par Bell, par un matériau solide. Et ce matériau solide, Franck, c'est extraordinaire. Il va le découvrir comme étant du noir de fumée. C'est-à-dire, en fait, la suie des verres de lampes à pétrole qui possède une extraordinaire qualité, c'est que leur résistance, finalement, leur résistivité, s'accroît en fonction de la pression qu'on exerce sur lui. Donc, ce qui est un défaut d'un certain côté devient une qualité à cet endroit. Il va fabriquer ce qu'on appelle une pastille de
ça,
carbone.
C'est toute l'aventure de la science, hein, transformer des faiblesses en atouts.
Extraordinaire.
Hein.
Il va faire brûler beaucoup, beaucoup, beaucoup de pétrole.
Oui,
il va récupérer la suie, il va la tasser, il va en faire une petite pastille, une capsule microphonique, dirait-on aujourd'hui. Il va la placer sur une platine. Il va transmettre une vibration donc à cette plaque et puis cette transformation en signal électrique. Et là, miracle, la voix sort extrêmement haute, extrêmement claire, extrêmement précise. Elle restitue toutes les teintes de cette voix et il va avoir une amplification. Il va inventer le téléphone moderne et Bell, qui aura tenté de vendre son invention à la Western Union pour 100 000 $ et puis il n'aura pas réussi et qui aura créé sa propre structure, ça va être racheté. L'invention d'Edison va être rachetée par la Western Union en disant « mais c'est fantastique ». Et c'est vrai que la qualité est extraordinaire. Donc évidemment, il va y avoir bagarre, parce qu'il a il a déposé son brevet, Bell. Et puis Edison dépose le sien, il y aura une grosse discussion, un gros deal, et au bout du compte, tout le monde s'entendra à l'américaine. C'est-à-dire que la Western Union dira « d'accord, mais je conserve 17 à 18% de l'ensemble de l'argent généré par le procédé sur les 20 ans, et donc elle fera fortune comme ça. »
Oui, parce que ce téléphone, il va se développer quand même bien rapidement. C'est assez extraordinaire. Lorsqu'on regarde l'histoire des inventions, on se rend compte que l'une de celles qui a été le plus vite adoptée, le plus volontiers adoptée, c'est le téléphone, justement. Oui. Hein, qui va, on n'a pas vu tellement d'opposition au téléphone. Dieu sait qu'il y a eu des oppositions à toutes les grandes inventions, quasiment. Mais le téléphone, les gens en voient tout l'intérêt et très vite, hein, quand même.
Oui, c'est le consommateur qui décide.
C'est ça.
Vous pouvez avoir une invention, quelle qu'elle soit, si vous ne recueillez pas l'adhésion du public qui l'achète, cette invention disparaîtra. Et ce qui est fantastique, c'est que Edison, et c'est aussi le cas de Bell, mais vous voyez bien la filiation, on passe du télégraphe au téléphone, et le téléphone va servir à quoi ? Au phonographe. Et regardez tout ce qui
ça va s'appliquer à bien d'autres inventions.
Hein. Tout ce qui va en découler.
Et bientôt la radio.
Et bientôt la radio, ah, le mégaphone, etc. Enregistrer la voix.
Pour parler, pour rester sur le téléphone, il y aura la révolution du téléphone automatique, hein, bien entendu, oui. Parce que pendant très longtemps, il faut quand même, d'abord, il faut un central, tout ça est très complexe. Oui. Et puis, à ce central, vous avez des opératrices. Peu à peu, on va automatiser le téléphone. Aujourd'hui, on en est arrivé à tout autre chose, c'est-à-dire le téléphone non seulement sans fil, mais le téléphone portable. C'est la dernière grande révolution du tournant du 21e siècle, ça.
Oui, toujours avec le même souci, c'est comment transporter un maximum d'informations sur un même support. On transporte aujourd'hui de la voix, on transporte des images, on transporte des données. Quand on parle aujourd'hui de téléphone 4e génération, c'est énormément d'informations qui circulent à la vitesse de la lumière avec une très grande quantité de données. Donc on a vraiment ce souci.
Mais ce que vous disiez, c'est
support.
Que le câble, oui, reste prédominant dans tout ça, hein, parce qu'on a toujours l'impression que tout passe par satellite maintenant. Mais
il y a très peu de temps. On a perdu le contact avec la station spatiale internationale, tout simplement parce qu'un bulldozer a coupé un câble à côté de Moscou, où il y avait le centre de réception. Et aujourd'hui, plus de 90% des communications dans le monde passent par des câbles sous-marins. Si vous coupez les câbles, il n'y a plus de mail, il n'y a plus d'internet, il n'y a plus de téléphone. Vous êtes dépendant des satellites. Et les satellites, c'est 5-6% des communications à travers les continents.
Les câbles, c'est ce qui est donc espionné. Hein. C'est sans doute pour ça que Christophe nous dit sujet d'actualité.
Certains vont sous l'eau pour s'y brancher. Donc retrouveront peut-être des vestiges du passé, des câbles oubliés.
Merci infiniment Alain Sirou de nous avoir fait partager votre incroyable... Parce que ça, on peut dire que vous avez l'enthousiasme, le souffle des dieux pour cette incroyable, magnifique aventure scientifique qu'a été le développement du téléphone. On est parti d'un câble télégraphique et on en est arrivé au téléphone portable. Je rappelle que le Mac du ciel et de la terre, hein, ce trimestriel qui s'appelle Macrocosme, qui est un très beau magazine consacré essentiellement à la nuit pour l'hiver 2013-2014, est en kiosque. Merci beaucoup Alain Sirou.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Nicolas qui aimerait en savoir plus sur l'origine du système de notation à l'école.
Retour aux origines.
Et vous répondez aujourd'hui, Franck Ferrand, à la question de Nicolas qui nous l'a envoyé sur la page Facebook de l'émission. Il s'interroge sur l'apparition du système de notation à l'école, son origine et son évolution.
Alors évidemment, l'origine c'est toujours un peu délicat parce qu'on pourrait parler des écoles antiques, hein, de l'école des scribes d'Égypte, etc. On pourrait parler de ce qu'on appelait aussi les petites écoles d'autrefois, avec notamment au Moyen-Âge, cette réunion d'écoliers dans des... Alors c'était plus ou moins informel encore à l'époque et on peut penser, en tout cas si l'on en croit Philippe Perrenou, c'est difficile de tirer des conclusions très sûres là-dessus, mais on peut penser qu'à cette époque, l'auto-évaluation primait sur l'évaluation, comme il dit, les élèves se préoccupant d'étudier ou de vivre ensemble plus que de réussir. C'est vrai que l'idée était d'acquérir un savoir. Et puis peu à peu, on va instiller aux élèves ce goût de l'émulation et de la réussite. Et ça, c'est le travail de qui ? Ben, évidemment, on a tendance parfois à les oublier, même si l'actuel pape est un jésuite, c'est le travail des jésuites, bien entendu, avec ces collèges qui, vers la fin du XVIe siècle, vont se répandre partout. On est en pleine époque de ce qu'on appelle la contre-réforme, ou aujourd'hui on dit la réforme catholique, c'est-à-dire la réaction au mouvement de la réforme protestante. Et le but est de faire émerger une nouvelle élite, qu'on pourrait nous appeler intellectuelle. Hein. C'est Ignace de Loyola, hein, c'est le fondateur des jésuites, qui va élaborer le ratio studio. Studiorum, c'est-à-dire un guide pour organiser les études autour de trois grands piliers qui sont les piliers de l'enseignement jésuitique, la discipline, la répétition et la concurrence entre les élèves. Eh ben, si vous voulez que les élèves aient de l'émulation, il faut les classer, bien entendu. Il faut hiérarchiser. Il faut récompenser les meilleurs. Il faut punir les moins bons. Et là, on va se mettre donc à établir des systèmes de notation. Vous savez qu'en France, l'école est gratuite, obligatoire, publique, laïque, depuis 1881. On connaît ça, bien sûr, les grandes lois de Jules Ferry. Eh bien, la notation, elle va apparaître à ce moment-là. Elle s'officialise, cette notation de 0 à 20. Vous savez, ou pour les petites classes de 0 à 10 d'ailleurs, elle s'officialise en 1890 et elle permet donc de classer les élèves du premier au dernier. Alors, il se trouve qu'en 1969, et moi j'ai subi ça si je puis dire, on a remplacé ce système par les lettres, vous savez, A, B, C, D, alors vous aviez C+, ou B- ou A+, pour les très bons. Bref, c'était un moyen d'être peut-être un tout petit peu moins vexatoire que de mettre un 14 ou un 12 et puis d'être un peu d'admettre que la notation n'est pas une science exacte. Quoi qu'il en soit, cette notation, je pense qu'elle est nécessaire si l'on veut que les élèves aient envie de progresser.